La question sonore, elle est ancrée en nous, mais elle est beaucoup plus inconsciente. Et donc là, l'objectif, c'était dans chacun de ces quartiers d'analyser la manière dont les gens vivaient cet espace-là d'un point de vue sonore. Je m'appelle Élise Gessler, je suis enseignante-chercheure à l'École du paysage d'Angers. J'enseigne plus particulièrement le projet de paysage à des élèves ingénieurs et mes travaux de recherche tournent autour du paysage sonore. Je m'intéresse plus particulièrement à la manière dont les gens, dont les habitants perçoivent, se représentent et pratiquent leurs espaces avec une entrée sonore. Alors la carte de bruit, c'est effectivement un outil qui est développé sur les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Et donc c'est une carte, c'est un document à la fois graphique et des textes qui montre en gros l'exposition des populations au bruit en ville. Donc c'est des courbes qui indiquent l'exposition en termes d'intensité sonore, en niveau de décibel A, des populations. Donc déjà en soi c'est un outil qui est assez intéressant mais qui est insuffisant puisqu'on a une approche qui est essentiellement négative et qui a uniquement une entrée sur la gêne sonore. On sait très bien par exemple que on peut être gêné par un bruit et que ce ne sera pas forcément lié à son intensité sonore. Un exemple, c'est par exemple d'entendre, je ne sais pas, dans l'appartement voisin une dispute. C'est plus finalement le sens que ce bruit a qui va nous être désagréable que l'intensité sonore. Ou alors même le bruit répétitif d'une goutte d'eau dans un évier, on a tous vécu ça, c'est quelque chose qui peut faire devenir fou. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de repérer en ville les espaces qui sont un peu protégés justement de cette exposition au bruit et de voir finalement quelles sont leurs qualités. Et là, on voit que ça a été pas mal fouillé, cette notion-là, au niveau européen. Et on se rend compte que la notion de calme, et donc la notion de zone calme, elle n'est pas que liée au sonore et encore moins uniquement à l'intensité sonore. Il y a vraiment une approche qui est celle qui est faite aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on intervient après coup. Donc effectivement, on a du bruit, donc on s'en protège, on construit un merlon, un mur anti-bruit. Alors que l'approche que j'essaye d'avoir, et qu'il y a quelques concepteurs, quelques paysagistes ou architectes qui essayent d'avoir, c'est vraiment de traiter du son au même titre que du visuel, de manière positive. Donc par exemple, dans l'aménagement d'un espace public, ça va être de travailler sur le traitement au sol pour apporter des sonorités différentes. On ne va pas avoir le même son, par exemple, sur du pavé ou sur du gravier ou sur du stabilisé. De travailler aussi, par exemple, sur la présence de certains végétaux qui vont avoir des sonorités très différentes. Par exemple, on parle du tremble. Du peuplier, c'est vraiment un arbre qui s'appelle comme ça parce que les feuilles créent vraiment une sonorité particulière. Donc on va pouvoir jouer aussi sur les espèces végétales. On peut aussi travailler beaucoup sur l'eau. Donc l'eau, c'est un élément qui a beaucoup été utilisé dans les aménagements, notamment des jardins. Aujourd'hui en ville, par exemple, on utilise beaucoup l'eau, les fontaines, pour faire des effets de masque. Un bruit d'eau, par exemple, c'est quelque chose qui va se rapprocher le plus possible d'un bruit blanc, donc qui est le bruit qui regroupe un peu toutes les fréquences, et qui va permettre de masquer d'autres sonorités, et notamment celles qui nous gênent le plus souvent en ville, le bruit de circulation, par exemple. On va se promener là dans un parc, on va demander aux gens quelles sont les sonorités qu'ils préfèrent en ville. 9 fois sur 10, on va avoir le chant des oiseaux. Après, quand on va un peu plus dans le détail, on verra bien qu'il y a des chants d'oiseaux qui font l'unanimité. Le chant d'un merle, c'est quelque chose que tout le monde aime. La corneille, c'est déjà quelque chose qu'on apprécie moins. Donc même si, effectivement, c'est très subjectif, c'est vraiment lié à notre parcours de vie, il y a aussi quand même des éléments qui peuvent se croiser et qui vont faire quand même sens commun. J'avais travaillé sur un quartier qui est très connu, le quartier Vauban à Fribourg, un éco-quartier avec une population plutôt des jeunes couples, plutôt des académiciens, avec du coup beaucoup d'enfants dans le quartier. Et par exemple, en entrant par le sonore et en discutant avec les habitants, on est assez rapidement passé d'un discours à « les enfants c'est la vie, personne ne peut dire « on n'aime pas le bruit des enfants ». Tout le monde avait ce discours-là, c'est super, les enfants sont partout dans la rue, on entend toujours des jeux, des cris d'enfants. Et puis petit à petit, derrière ça, on voyait qu'il y avait toute une partie de la population qui disait « c'est sûr, c'est super pour les enfants, mais les enfants sont vraiment partout, il n'y a pas d'espace dans lequel on peut être un peu isolé, lire un livre tranquillement, les enfants sont vraiment partout ». Et on se rend compte qu'effectivement, le quartier a complètement été aménagé en priorité pour les enfants. Et donc, toute une partie de la population a très peu sa place, finalement, dans l'espace public. Et donc, voilà, d'entrer par le sonore donne des clés de compréhension sur une organisation d'un quartier et permet, par la suite, éventuellement, d'aménager des espaces qui prennent en compte l'ensemble de la population. Je pense pas que l'objectif c'est de rajouter des sons en plus, mais c'est plutôt d'essayer d'aménager les espaces pour créer des ambiances différentes dans différents espaces de la ville et de permettre aussi de faire cohabiter différentes populations et différentes activités à des temps donnés dans la ville. Donc c'est ça aussi qui est très important. Субтитры сделал DimaTorzok.